France Info.
Bonjour Marc Trévidic.
Bonjour.
Enfin, vous rêviez d'être pilote de Formule 1 et d'être un rocker, le pied au plancher et avec comme principal ami posé sur le siège avant, si j'ai bien tout compris, une guitare. Sauf que vous êtes très vite passionné pour le droit, au point d'en faire l'essence même de votre vie professionnelle. Vous avez été juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de Paris, avec au quotidien des affaires ultra sensibles, comme les attentats de la rue des Rosiers, de la rue Copernic, Karachi en 2002, ou encore les assassinats des moines trappistes de Tibérine en Algérie. Vous avez aussi été président de l'association française des magistrats instructeurs. Vous êtes actuellement président de la chambre de la cour d'appel de Versailles et écrivain. En résumé, vous ne vous arrêtez jamais, sans vilain jeu de mots. Avec quelques ouvrages autour du terrorisme, vous publiez Justice présumée coupable, aujourd'hui, chez Albin Michel. J'avoue qu'au début, quand on lit le titre, on se dit c'est pas possible, c'est prémonitoire, il savait pas, enfin on se pose la question. Il en dit long, ce titre.
Il en dit long, il dit surtout que ça date pas d'aujourd'hui, qu'on est présumé coupable. Hein. On est présumé coupable de deux façons différentes. Il y a les citoyens qui estiment que la justice est mal rendue au quotidien, et donc la justice est mal vue, et elle est présumée coupable pour une bonne partie de la population, il faut être honnête et le reconnaître. Et puis elle est présumée coupable parce que depuis les années 90, elle essaye de rendre une justice égale pour tous, c'est-à-dire aussi d'aller chercher ceux qui détiennent le pouvoir financier ou politique quand ils se comportent mal. Donc des deux côtés, on est un peu conspué, il faut bien dire. C'est pas très réjouissant.
Votre livre sort quand même à un moment très précis, ouais, très fort. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 50 prison par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs avec exécution provisoire dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président parle d'humiliation subie par les magistrats et par la juge. Il se dit innocent et donc il se dit injustement condamné. L'opinion publique se déchire et la justice est au cœur de l'arène avec une défiance qui interpelle. Vous en pensez quoi ?
D'abord, les justiciables, dans leur ensemble, ne comprennent pas les décisions de justice. Là, ils ne comprennent pas qu'en fait, ce qui s'est produit, se produit dans les tribunaux de façon sont régulières, tous les jours. Il y a des personnes présumées innocentes qui arrivent libres à l'audience et qui se retrouvent avec un mandat de dépôt et qui vont en prison, même pas différé d'ailleurs, les trois quarts du temps, c'est tout de suite les menottes. Bien que ces personnes aient le droit de faire appel et que la condamnation ne soit pas définitive. Donc, le législateur, ces dernières années, n'a eu de cesse, finalement, de favoriser la détention provisoire, en fait. L'exécution provisoire. Alors, on l'a vu pour Marine Le Pen, en créant des peines obligatoires d'inéligibilité pour plein d'infractions, en donnant ce pouvoir également aux juges. Donc, il y a cette volonté d'être très sévère, très strict avec les délinquances de droit commun, et on voudrait qu'on ne le soit pas avec les délinquances en col blanc. Voilà à peu près la problématique. Les Français sont un peu curieux dans leur conception de l'état de droit. Ils veulent la justice égale pour tous parce que l'égalité, c'est très important pour les Français. Mais dès qu'on touche au roi ou à l'ex-roi, eh ben, ça se crispe. Il y a cette ambivalence, à mon avis, chez nos concitoyens.
Pouvez-vous nous expliquer ce terme d'association de malfaiteurs qui est très utilisé, et pour cause, vous le savez très bien,
évidemment,
en matière de terrorisme.
On s'en sert à 100% en matière de terrorisme parce que le but est effectivement, au départ, des associations de malfaiteurs, d'éviter, en matière terroriste, qu'il y ait un attentat, donc pouvoir arrêter les gens en amont quand ils préparent. Ils font simplement des actes préparatoires à un crime. Mais ça existe en droit commun. On peut poursuivre, c'est ce qu'on fait pour des braqueurs, par exemple, des personnes qui sont en train de préparer un braquage. Ils se réunissent, ils achètent des armes, des cagoules, et on va leur tomber dessus sur les simples actes préparatoires avant qu'ils soient passés à l'action. Il est vrai que c'est aussi décrié, parce que parfois on s'en sert dans la mesure où on n'arrive pas à prouver l'infraction principale. Donc on démontre qu'il y avait des actes préparatoire à cette infraction principale et ça suffit pour poursuivre. C'est ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy. Mais là encore, l'association de malfaiteurs est de plus en plus utilisée par les parquets et c'est une volonté de la loi, du législateur. Il ne faut pas que le législateur soit surpris que parfois il est aussi utilisé pour la délinquance en col blanc.
Vous dites que le juge et le doute qui nous habite est donc curable que par la preuve, finalement.
Oui.
En tout cas, ils sont tous les deux inséparables comme Tintin et Milou. Dans l'affaire qui touche Nicolas Sarkozy, le financement libyen de sa campagne, la juge a souligné la gravité des faits et des actes dans ce dossier. Est-ce important de préciser que cette décision n'est donc pas fondée sur de l'intime conviction, en tout cas pas uniquement, mais que le tribunal dispose d'éléments précis avérés comme le document transmis par Mediapart, qui, malgré ce qui a été dit par Nicolas Sarkozy et ses avocats, n'est absolument pas un faux, d'ailleurs, à trois reprises, que ce soit en première instance, en appel et en cassation, les demandes de Nicolas Sarkozy pour définir que ce document était faux ont été déboutées, ce qui lui a valu d'ailleurs de donner de l'argent à Mediapart. C'est important de le préciser, ça, que ce n'est pas fondé que sur de l'intime conviction.
Alors tout d'abord, mes collègues ne sont pas fous. Dans une affaire aussi importante, je suppose qu'ils ont des billes, pas que ça, et d'autres éléments pour motiver leur décision. Je m'empresse aussi de dire que c'est une collégialité qui prend une décision. Parce que on adore les têtes de turc. Dans mon livre, je parle de juge unique, hein, juge d'instruction. Mais c'est une collégialité. Et comme pour Marine Le Pen, on oublie ça complètement. Ce sont trois magistrats, pas un seul. Ça sert à rien de pointer du doigt. La présidente du tribunal, on ne sait pas ce qui s'est passé en délibéré, notamment sur le mandat de dépôt. Donc c'est une collégialité. Ça se aussi une collégialité en appel. Maintenant, le problème de la preuve, c'est que l'intime conviction se fonde sur des éléments de preuve rationnels, mais il y a, selon les juges, parfois les jurés en cour d'assises, des degrés d'exigence de preuve qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai des jurés qui doutent de tout, il y en a qui doutent de rien. Deux témoins leur suffisent, il y en a, il leur faut vraiment des éléments matériels, des preuves scientifiques, et d'autres, voilà, sont dans cette ambivalence. Donc, la preuve, c'est une appréciation d'éléments à charge, et on leur donne une valeur, et là, effectivement, il y a du subjectif dans la valeur que l'on peut donner à une preuve. Un témoignage, par exemple. Qu'est-ce que ça vaut, le témoignage? Le premier Taïkédine, le deuxième, le troisième. Donc il y a tout un ensemble de choses. C'est un travail, c'est un vrai travail. Ça consiste à mettre tous les éléments et à fonder son intime conviction sur ce qu'il y a vraiment dans le dossier. C'est ça le travail de juge. Maintenant, il y a un recours en France, il y a une cour d'appel. Et on verra comment elle appréciera les charges qui sont dans le dossier.
Il peut ressortir.
Nicolas Sarkozy va très certainement retrouver la liberté avant le jugement en appel, pour une simple et bonne raison. Autant un tribunal correctionnel peut fonder un mandat de dépôt à l'audience sur la gravité des faits, autant quand il y a une demande de mise en liberté une fois que la personne est incarcérée, ce sont les critères habituels de détention provisoire qui s'appliquent. Et là, en matière délictuelle, c'est pas la même chose en matière criminelle, en matière délictuelle, on ne peut pas fonder la décision sur la gravité des faits ou le trouble à l'ordre public. Donc la probabilité très forte, c'est qu'une fois incarcéré, il sera remis en liberté parce que ce ne sont pas les mêmes critères légaux qui s'appliquent tout simplement.
Selon vous, qu'est-ce qui fait que la justice soit autant mise à mal? Là, on lit depuis quelques jours, la guerre contre les juges est déclarée. C'est violent. Vous qui avez toujours considéré que justement le droit était quelque chose de juste.
Notre société va mal, nos institutions vont mal. Il n'y a plus de respect des institutions d'une manière ou d'une autre. On va pointer du doigt les juges parce qu'en fait, ce sont eux qui tranchent les problèmes de société. On va les planter du doigt parce que, dans les affaires familiales, on enlève un enfant. Là, on a laissé quelqu'un en liberté qui a récidivé. Bon, ils sont les plus exposés. Avant, ils l'étaient moins. Mais aujourd'hui, avec les médias, les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime. On fait des radios-trottoirs, vous comprenez. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique en quoi interviewer des gens dans la rue pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de la condamnation de Nicolas Sarkozy fait avancer quoi que ce soit. Les dossiers sont très lourds, très complexes. C'est du gros boulot d'instruire et de connaître un dossier comme ça. Je suis président de cour d'assises, hein, je vois ce que ça peut donner. Dans ce cas-là, si c'est le peuple qui doit, dans un radio-trottoir, décider si quelqu'un est coupable, on peut se passer de juge, mais on verra ce que ça donnera.
Vous racontez votre parcours dans cet ouvrage et cet amour que vous avez pour la poésie. C'est ça qui est assez fascinant. D'ailleurs, finalement, c'est le point de départ de cet amour entre le droit et la poésie. C'est un livre qui vous a été donné quand vous avez justement réussi vos examens d'entrée, comme on dit. C'est un coup de foudre.
Oui, c'est un coup de foudre. C'est un peu plus que ça. C'est un peu une découverte de comment la société fonctionne. Le droit, c'est ça, en fait. Comment ça se passe? Comment il y a des gens qui arrivent à vivre ensemble? Ok, une petite tribu, ça peut aller, mais comment une société complexe arrive à vivre ensemble? Elle y arrive par le droit. Justement, le fameux état de droit, tout le monde en parle n'importe comment. L'état de droit, c'est ce qui fait que ça peut tenir. C'est les fondations. C'est les fondations. Et le problème, c'est qu'on passe son temps à tirer sur nos fondations. Il se trouve que le juge dit le droit. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le socle, le droit, et c'est le juge qui est censé le dire.
Ce livre, il est ponctué d'adages. Celui qui prévaut systématiquement, c'est « À l'impossible, nul n'est tenu
». Oui, ça c'est vrai. Pour un juge, évidemment, on a les moyens que l'on a, hein, que l'on nous donne, matériels, humains, juridiques. Et puis, il y a aussi des problèmes qui nous dépassent. Ça nous dépasse parce qu'il y a la mondialisation, qu'on ne peut pas aller chercher dans les paradis fiscaux des comptes bancaires, qu'on ne peut pas arrêter les gens parfois dans l'endroit où ils se trouvent. Dans tous les domaines, on est très, très, très limité. Mais moi, l'adage qui est le plus important pour moi, c'est celui qui clôture le livre. C'est le droit et l'art du bien et de l'équitable. C'est vraiment, vraiment ça qui m'a fait...
C'est ce qui vous a donné envie de vous marier
exactement.
Avec ce métier.
Ouais. Le droit doit tendre à la justice. Le droit peut servir à opprimer. Alors, je donne des exemples d'un écrivain qui est incarcéré en Algérie, par exemple. Hein. Voilà, c'est un exemple. Mais bien sûr que ça peut opprimer le droit. Enfin, un juge russe qui condamne un opposant se sert du droit pour remplir une fonction qui est tout sauf de la justice. Donc, le droit n'est pas synonyme de justice. Mais ce que nous dit ce Romain Sels, c'est c'est que le droit doit tendre vers la justice. Et donc les magistrats doivent avoir cette idée qu'il y a quelque chose de plus important que la règle de droit, c'est la justice. Donc sociale, ça veut dire l'harmonie sociale, l'harmonie de la société, l'équilibre de la société, ce fameux fondement justement dont je parlais.
Vous pointez du doigt ce qui ne fonctionne pas. Vous dites aujourd'hui le législateur se noie dans les circonvolutions, il ajoute des alinéas aux alinéas, et les lois ressemblent à des listes de commissions sur lesquelles il manque toujours quelque chose. Vous citez Tacite en l'an 1er avant Jésus-Christ, Plurimae leges messima republica, ce qui signifie les lois en excès sont la plus mauvaise des républiques, font la plus mauvaise des républiques. Nous y sommes aujourd'hui ?
Ah bah complètement, c'est complètement. On accumule les lois après chaque fait divers, je veux dire chaque événement. Là, ils vont peut-être nous en trouver une pour limiter exécution provisoire d'inéligibilité à certaines infractions et pas d'autres. Voilà, ils réagissent simplement par des scoops comme ça, des petits... Alors ça peut être une bavure, ça peut être... Mais c'est tout. Il n'y a pas de réflexion d'ensemble, il n'y en a plus. Ce qui fait que nous, on n'arrive plus à les appliquer, ces lois-là. Regardez ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas les mêmes critères de mettre en détention provisoire quand on est un tribunal correctionnel et qu'on vient de déclarer coupable, qu'après la cour d'appel quand elle est saisie d'une demande de mise en liberté. Les Français vont rien comprendre à ça. On le met en prison, on le ressort. Vous voyez, mais ça, c'est tous les jours que ça se passe comme ça. Moi, je suis à la cour d'appel, donc l'été, quand je ne suis pas aux assises, je prends des audiences et je ressors des personnes de détention provisoire que mes collègues ont mis un mois avant en détention provisoire parce que la loi ne nous donne pas les mêmes consignes, les mêmes règles à appliquer.
C'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous dites qu'une loi, quand elle est établie, par moment, elle veut tout dire, rien et son contraire, et à la fois plein de choses, et que par conséquent, le juge qui ne fait pas les lois doit appliquer la loi et parfois interpréter la loi.
Ah bah, on n'a pas le choix. Alors, il y en a qui sont complètement non applicables, non interprétables, on a beau se creuser la tête. Il y en a d'autres, on arrive à voir un peu, mais il va falloir beaucoup de temps avant que finalement la Cour de cassation, tout en haut, dise, bah voilà comment il faut comprendre ce texte, quitte à changer un peu après... D'ailleurs, sur sa propre interprétation, pour des raisons parfois utilitaires, c'est très compliqué. L'association de malfaiteurs terroristes, c'est une grande extension par rapport au texte initial, hein, dans l'appréciation de comment le comprendre. Voilà, pour des besoins, généralement, qui sont sécuritaires, hein, très clairement, hein, puisqu'on nous pousse à être de plus en plus ferme, ce que je peux comprendre d'un certain côté, sauf manifestement dans certaines matières, on dirait.
Les défenseurs de Nicolas Sarkozy disent justement qu'ils ne comprennent pas ça, en disant qu'ils... ne peut pas faire de mal à la société. Vous répondez quoi à ça ?
La loi permet au juge de mettre sur mandat de dépôt quand il met une peine de prison ferme parce qu'il estime que les faits sont exceptionnellement graves. Ça a été l'appréciation de ce tribunal. C'est un critère que la loi lui donne. Il se trouve que c'est fait tous les quatre matins. Et je vais même vous dire que j'ai le ministère public, le parquet à l'audience, la plupart du temps, quand il requiert une peine de prison ferme, requiert mandat de dépôt. La plupart du temps. Ils ne l'ont pas fait là pour Nicolas Sarkozy, mais la plupart du temps. En disant c'est très grave, je demande de la prison ferme, il faut qu'il exécute tout de suite, parce que voilà. Il y a aussi la peur chez les juges d'une non-exécution, parce qu'il faut bien comprendre que le citoyen lambda, lui, il va être pris en garde à vue, il va passer en comparution immédiate, il va en prison. Les gens qui ont beaucoup plus de moyens pour se défendre vont faire traîner la procédure pendant des années et des années à l'instruction. Et donc peuvent finir par échapper à toute peine, en fait. Et le but du jeu, pour certains, c'est de faire durer. Je pense que dans la décision du mandat de dépôt, dans cette affaire, ça a dû traverser l'esprit du tribunal en disant, bon, après il y aura appel, il y aura pourvoi en cassation, puis après il aura l'âge qu'il aura, et voilà. Et donc c'est très grave, il faut qu'il y ait une sanction à un moment donné. Je pense qu'il y avait ce raisonnement. Je suis juge, donc je pense que ça a traversé l'esprit de cette composition.
Il y a un adage qui nous touche tous et toutes en tant que citoyens, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». Et on se rend compte à travers cet ouvrage à quel point tout est compliqué, même pour les magistrats qui étudient et qui travaillent. C'est en ça d'ailleurs que le bât blesse.
Évidemment, c'est une hypocrisie totale de dire ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des lois qui sont de plus en plus complexes, des arrêtés, des décrets, ça change tout le temps. Et puis on va embêter le citoyen là, qui va devoir payer ceci, cela, parce qu'il ne savait pas. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. La vérité, c'est qu'elle est parfois incompréhensible. Et puis, il y a tellement de textes qui passent que même les professionnels ne peuvent pas suivre le courant, hein, ne peuvent pas arriver à... Et moi, parfois, je découvre des textes qui m'étaient passés complètement à travers.
La justice est donc à deux vitesses. C'est la question qu'on se pose en refermant cet ouvrage, Marc Trévidic.
Au moins deux vitesses. Au moins deux vitesses. Il y a deux vitesses et puis aussi, il y a marche arrière, vous savez. La marche arrière consiste à ce qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton et que l'indépendance de la justice fasse marche arrière. Des années 90, l'indépendance de la justice, des luttes à faire urba, etc. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, Rachida Dati, ont voulu mettre un frein à cette indépendance de la justice, très clairement. Il y avait, je me souviens de Rachida Dati, je suis le chef des procureurs, ah bon ? Mutant d'office un procureur général. Des choses qui sont possibles dans les textes, mais que personne ne faisait. Donc ça a continué après, et la justice a continué à marcher vers son indépendance. Mais le retour de bâton, quand j'entends tous les hommes politiques, etc., n'est pas loin. N'oublions pas qu'actuellement, les textes n'ont pas changé. Le parquet est toujours hiérarchisé au pouvoir exécutif, malgré toutes les promesses de tous les présidents qui se sont succédés. Et donc, potentiellement, une reprise en main de la justice par le ministère public, des poursuites qui ne sont pas faites, ou etc., ce que j'ai connu, hein, personnellement, peut avoir lieu. Donc, méfiance quand même.
L'indépendance de la justice vous fait-elle peur, alors, son avenir, en tout cas ?
Mais il faudrait une indépendance sereine. Là, on est dans une indépendance de lutte. L'indépendance sereine serait que on fasse notre boulot normalement et qu'on soit plus suspecté tout le temps de les faire pour des raisons politiques. Or, on ne donne même pas cette possibilité de sérénité. Mettez-vous dans la tête des magistrats qui vont juger en appel cette affaire Sarkozy, avec toute la pression qu'il y a. Ils savent que, quelle que soit la décision, elle sera vue sous un angle politique. On n'a pas cette maturité encore dans la justice française et dans la population française et dans le personnel politique, qui est de dire, écoutez, il y a une décision qui a été rendue, on va attendre l'appel, la cassation, sereinement, on laisse les gens bosser et on ne dit pas tout et n'importe quoi.
L'empereur Justinien était au droit ce que Platon était à la philosophie, c'est ce que vous écrivez, il a bâti les pyramides du droit romain, le corpus juris civilis, valable jusqu'à l'empereur Auguste, où là, des hauts fonctionnaires ont eu le droit d'interpréter finalement la loi.
Oui, ouais, le digeste, voilà, le digeste reprend les travaux des principaux jurisconsultes. Les Romains étaient un peuple de juristes. Nous, nous sommes un peuple de législateurs. Il y a un problème, on vote une loi. Les Romains ne faisaient pas ça. Ils votaient peu de lois. Par contre, il y avait des jurisconsultes, des gens qui étaient réputés pour leur savoir juridique, qui, avec des adages, justement, faisaient évoluer les règles, insensiblement, mais utilement, pour être toujours en phase avec la société et l'évolution. Ce n'est pas le législateur qui le faisait, c'était effectivement les jurisconsultes.
Vous soulignez à quel point les mots continuent aujourd'hui à dire le droit. Ils inscrivent d'ailleurs la vérité sur le vélin de la justice, ça c'est hyper important de le préciser. Le droit est-il toujours l'art du bien et de l'équitable, alors ?
Non, pas toujours. Ça, c'est clair que ça ne peut l'être que dans une démocratie, d'abord. Le droit ne va tendre vers la justice que dans une démocratie, que s'il n'y a pas d'interférence politique, c'est-à-dire si on ne dit pas au juge quelle décision il doit prendre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays dans le monde où malheureusement mes collègues, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire. Et donc il faudrait peut-être faire attention à préserver en France le fait que justement c'est une garantie des juges indépendants. À moins qu'il y ait quelques politiques qui voudraient que les juges ressemblent aux juges russes, algériens, coréens du Nord, chinois. Non mais voilà, c'est ça la question.
Ça, c'est un message qui est envoyé aussi aux citoyens, de leur faire prendre conscience que de ne pas tomber dans ce piège finalement de séparer et de montrer du doigt les juges, qu'ils ne font que leur travail.
D'autant que les citoyens français font appel de plus en plus aux juges. Il y a de plus en plus de contentieux, on va de plus en plus facilement voir le juge. C'est un peu contradictoire. Hein. Moi, si vous aimez pas le pain, vous n'allez pas à la boulangerie. Or, le moindre conflit, maintenant, on va voir le juge. Même des broutilles. Hein. J'en cite pas mal dans le livre, des exemples que j'ai pu avoir. Des minimis non curat praetor. Le prêteur, on l'appelait comme ça à l'époque. Bon, le juge ne doit pas s'occuper des minimis des petites affaires. C'était quand même un adage romain qui disait attention, la judiciarisation à l'extrême, que le moindre problème avec vos voisins, le moindre problème avec votre femme et tout, ça passe devant le juge, c'est pas une bonne société non plus. Attention.
Avant, quand on avait une décision de justice, on ne la discutait pas. À aucun moment. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est négociable. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est ce que montre cet ouvrage aussi. Oui. Malgré l'attention apportée par les magistrats, et vous en faites partie, on sent à quel point vous êtes très investi dans votre métier depuis des années, Marc, à avoir mis par moments votre vie privée de côté, parce que vous avez été sous haute protection policière. Là, la magistrate qui a rendu sa voix au tribunal se voit menacée de mort. C'est dramatique ce qui est en train de se passer.
Tout à fait, il n'y a plus de limite. On a attaqué la justice depuis tellement d'années, on lui a fait perdre le respect qui lui est dû en tant qu'institution. Et maintenant, on s'en prend aux personnes physiques, c'est le cursus classique. C'est très grave et c'est pour ça que ceux qui attaquent la justice au quotidien prennent une responsabilité énorme de notre démocratie. Je vais vous dire, la justice, c'est le seul rempart entre ceux qui ont du pouvoir économique ou politique et la corruption. Il n'y a pas d'autre. Cherchez pas, il n'y a pas d'autre. C'est pas le citoyen dans la rue qui va être un rempart contre un pouvoir corrompu, par exemple. Hein. Donc il en faut des juges. Il faut des gens qui puissent être là. Alors, un rempart parfois inefficace, c'est sûr. C'est pareil pour la criminalité et la délinquance de droit commun. On a une grande part d'inefficacité. J'essaie d'expliquer aussi pourquoi. On n'est quand même pas les seuls responsables. Moi, je sais simplement que je sors d'une session d'assises, 15 jours. J'ai dû finir à 22, 23 heures tous les jours. Je suis rentré à 3 heures du matin samedi. Voilà ma vie. Donc, très franchement, on fait le maximum. Donc, il y a au moins le respect de ça, dévouement de tous les gens qui travaillent pour la justice.
On se demande d'ailleurs comment c'est possible de critiquer une décision de justice sans être inquiété.
Non, mais il y a aussi la liberté d'expression, attention. Alors, il ne s'agit pas d'injurier les juges. C'est un peu le problème, d'ailleurs. Moi, très rarement, je suis injurié par les gens en face de moi. Très rarement. Ça m'est arrivé des sauts d'humeur qu'il faut parfaitement comprendre. Un accusé qui va me prendre une lourde peine, vous comprenez bien, qui est pas ravi, qui peut avoir des mots. Mais c'est finalement assez rare. Donc, c'est d'autant plus surprenant qu'un ancien président de la République ait des propos qui consistent à dire que les juges qui l'ont jugé ont déshonoré la France ou je sais pas quoi. Enfin, soyons un tout petit peu sérieux. Il faut que ça redescende en pression. On verra si la cour d'appel le déclare coupable ou pas. Moi, je vois les choses très simplement.
Dans cet ouvrage, on découvre votre parcours, vos premiers pas de magistrat à Péronne. C'était en 91. Vous aviez 25 ans. Vous soulignez à quel point vous étiez totalement inexpérimenté. Ah, d'ailleurs, bah oui, vous assumez alors pleinement. Vous aviez conscience de ça. Pourtant, vous avez vraiment été jeté dans le grand bain. Qu'est-ce qui fait un bon juge? On dit qu'un ingrédient indispensable est justement d'avoir une connaissance parfaite de l'injustice.
Oui, alors c'est effectivement, Platon voulait que les juges soient assez âgés, parce qu'il faut quand même connaître l'injustice du monde pour pouvoir être juge. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, et après, il y a deux façons de réagir par rapport à ça. Quand vous êtes jeune magistrat, balancé juge d'instruction là, en Picardie, soit le fait que vous soyez inexpérimenté vous permet justement de vous méfier de vous-même. Là, je parle des magistrats intelligents. Soit il y a le jeune juge en bois brut, j'allais dire, qui est sûr de lui, avec la jeunesse, etc. Et là, il va faire plein de bêtises. Hein. Un jeune magistrat, il peut très bien réussir dans sa carrière et pas faire trop de bêtises s'il doute de lui-même, quand même. Voilà, s'il se pose des questions, précisément parce qu'il ne connaît pas le monde. Et voilà, donc ça peut aussi marcher.
La justice, elle est mise à mal aujourd'hui parce que beaucoup ne comprennent pas effectivement comment ça fonctionne. Et ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Le terme de présumé innocent, puisque vous allez à l'encontre de ça à travers votre titre « Justice présumée coupable », protège pour certains les accusés et ne protège pas assez les victimes. Est-ce que c'est pas là où le bât blesse finalement, là où on a les plus grosses difficultés de compréhension entre guillemets,
bien sûr,
de savoir de quel côté on se positionne?
Ben oui, mais on peut pas avoir tout et on peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Quand vous avez
des personnes qui sont acquittées après avoir fait ou relaxées après avoir fait une longue période de détention provisoire, souvenez-vous l'affaire Outreau. Et moi-même, j'acquitte des personnes aux assises, en appel d'assises, qui ont fait trois ans et demi de détention provisoire, alors que je trouve qu'il n'y a pas d'élément dans le dossier. Et les jurés avec moi. Donc, on ne peut pas à la fois dire, c'est honteux, on a mis un innocent en prison qui était présumé innocent, et puis vouloir qu'on les mette tous, parce que si jamais ils étaient coupables, ils sont dangereux. Alors, effectivement, je le fais avec humour, cynisme, vous prenez ça comme vous voulez. Oui, il est moins risqué de mettre un innocent en prison que laisser un coupable dehors. Parce que l'innocent, en prison, il va pas recommencer à être innocent. Le coupable dehors, voilà. Mais donc, c'est l'ambivalence du truc. La justice n'est pas une science exacte. Il y a des erreurs. Il y en a. Et donc, on choisit le moindre mal en préférant laisser dehors quelqu'un plutôt que risquer de se tromper.
Vous précisez effectivement que le doute bénéficie toujours à l'accusé.
Bah oui, ça c'est la loi aussi. C'est la loi et c'est la logique. C'est comme ça.
Votre premier souvenir au tribunal, c'était un souvenir assez fort. Vous n'étiez pas haut. Hein. C'était votre oncle qui vous l'a apporté.
Exact.
Il était un peu voyou.
Jean-Pierre, ouais.
Il vous a permis de découvrir ce que c'était qu'un parloir, si j'ai bien tout compris.
Oui, 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 c'est retrouvé en détention provisoire pour une histoire de stupéfiant. Et donc, il était à la maison d'arrêt de Bayonne. Voilà, j'étais très attaché à lui, donc je suis venu le voir. Il n'est pas resté très longtemps. D'ailleurs, il a été innocenté pour cette affaire. Non, mais vous voyez comme quoi. Hein. Alors, ce qui est plus rigolo, c'est qu'à l'École nationale de la magistrature, en 89, qui était mon maître de conférence de stage qui m'a formé à l'instruction, il avait été juste retrouvé à Bayonne. C'est lui qui avait mis en prison mon oncle. Il n'a jamais mais donc ça m'a fait un petit recul d'emblée.
Juger au quotidien, laisse-t-il indemne? C'est la question qu'on se pose. Finalement, c'est très compliqué pour une personne, quelle qu'elle soit, même si elle est juge, de signer la privation d'un individu ou en même temps de le laisser avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui puisse faire encore du mal à des personnes.
Tout à fait. On essaie de choisir la moins mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne solution. Pareil, un juge des enfants qui décide de placer un mineur ou ne peut pas le placer, choisit entre deux mauvaises solutions. Non mais c'est, faut bien comprendre, hein. Si j'avais une phrase dans le livre que j'aimerais citer, bon, qui est de moi, donc je vais le faire. Le juge est impuissant à faire le bien, alors de temps en temps, il se résigne à faire le moindre mal. Voilà. Et dans toutes les décisions dont on parle là, il est clair qu'on est dans le moindre mal. On prend cette décision, qu'est-ce qui vaut mieux, ça, ça. Mais il n'y a pas de solution idéale. Tout est complexe. Le vrai souci. Après, le juge doit trancher. Il est obligé. Il ne peut pas se retrancher. Oh, je ne sais pas. Il doit trancher. Il doit prendre la décision. Sinon, c'est un déni de justice. Il est obligé par la loi de trancher. Et parfois, ça m'arrive, je tiens à le dire, je suis président d'une cour d'assises. Parfois, la décision qui a été prise par la cour d'assises, je ne la partageais pas. Et c'est pourtant moi qui ai pris ma plume et qui ai motivé en délibéré avec les jurés, tous les arguments qu'ils m'ont donnés. Donc parfois, j'assume, secret du délibéré, j'assume une décision que je ne partageais pas. Donc ça va plus loin que ce que vous pensez. C'est parfois être obligé de porter quelque chose. C'est pour ça que je dis attention, attention, c'est facile de pointer du doigt tel ou tel juge. Vous savez même pas, sur tel ou tel point de la décision, quel a été le délibéré.
Êtes-vous inquiet quant à l'avenir de la justice?
Très, je pense que vu les réactions que l'on voit actuellement contre la justice, je vous ai parlé de retour de bâton. Et je pense qu'il est possible qu'en 2027, selon les élections évidemment, il y ait une tentation de reprise en main de la justice, qui est d'autant plus facile, encore une fois, que les textes, la pratique a changé au fil des années, mais pas les textes. Voilà le danger. Et c'est un danger pour la démocratie, très très clairement.
Merci beaucoup, Marc Trévidy, d'être passé dans remercie. Le Monde, Élodie sur France Info. Justice présumée coupable, c'était pas ma langue qui a fourché, c'est sorti chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci.